Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va faire un deuxième chiour de préparation au CEDER. On va se faire préparer au CEDER grâce au Maharal. Et avant de commencer un petit peu les textes du Maharal, la semaine dernière, on a parlé en introduction de l'importance de la préparation du CEDER à l'avance. Donc, on avait rapporté l'enseignement du Khatam Sofer, notamment. Et dans sa Agada, le Rav Asher Weiss fait remarquer que les simanim du CEDER, tels qu'on les a aujourd'hui, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, etc., ont leur source dans le Marzor Vitri. Donc le Marzor Vitri, je rappelle, qui est écrit par Rabbi Simcha de Vitri, Vitry-le-François en France, dans l'Est de la France, qui était un élève de Rashi, donc c'est l'école de Rashi, dans l'Ilchot Pesach, au Siman Samerche, et dans le Sidur Iyun Tefila, il écrit quoi ? Sheyesh miyachasim simanim ele le rabbi Shmuel mifalez mibalei atosfot. Donc en fait, voilà, les simanim, il faut qu'on sache que les simanim tels qu'on les a dans la Gada aujourd'hui, c'est production made in France 100%. Donc soit Rabbi Simcha de Vitry, soit Rabbi Shmuel de Falaise. Alors pourquoi je commence par ça? Parce qu'il nous dit que la raison pour laquelle on a institué ces simanim, c'est également rapporté dans un autre livre qui fait partie des livres de l'école de Rashi, le Sefer HaOré. Et non pas Aura, comme les gens lisent mal en général, c'est faire Aoré. À la fin d'Ilchot Pessah, il dit la chose suivante. Il dit Mikevan shedine aseder rabim hem, étant donné que les dinim du seder sont extrêmement nombreux, Urdeshi ase adam aseder kechol mishpato vetikuno vechukato, de manière à ce que chacun d'entre nous puisse faire le seder selon toutes les règles, tiknu asimanim halalu, nos maîtres ont institué les simanim. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les simanim ont été institués. Et il nous dit que dans le Sefer Vayaged Moshe, au Simaniut Dalet, Natan ta'am nishvach, dechol davar shibigdusha, tsarich achana ve'azmana, kemo shenoagim lomar lifnei birkat Amazon, havlan ve'nivrich. Donc on revient à ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que toutes les choses importantes dans la vie, c'est des choses qui doivent être préparées, et a fortiori, donc, les choses qui sont des dvarim shibigdusha, comme on voit le inyan du Zimun. Et il nous renvoie au Magan Avram, au Siman, au début du Siman Kouf Tzadik Bet, au nom du Zohar HaKadosh, Resh Parashat Devarim.
Avant eux, il y avait quoi alors? Il n'y avait pas de Siman, tout ça?
Alors, on va parler de ça. Ouais. Il dit Alken, Belaila HaKadosh Azeh, Tiknu Kadmonenu Zal, Simanim, les mitzvot Atluimbo. Il dit, c'est pourquoi nos maîtres ont institué des Simanim. Et en prononçant les Simanim, Befemale, avec bouche pleine, mot à mot, c'est-à-dire de manière très explicite, de manière forte, chez nous, on les chante, en tout cas, on les chante, on les répète, etc. C'est comme si on est Mezamen Atzmo à la Kedusha. Vous savez qu'il y a aussi un Sefer qui est connu où il y a des, pour toutes les mitzvot du Seder, à chaque fois un texte, Areni, Mouchan, Umzuman, Lekaye, mitzvot ceci, mitzvot cela, etc. Donc c'est très important d'avoir conscience que finalement la soirée du Seder, d'un côté, est relativement longue, mais d'un autre côté, passe assez vite. On passe d'étape en étape. Et on n'a pas toujours le temps de penser à ça. Alors, il fait remarquer quand même le Rav Asher Weiss qu'il y a certaines mitzvot qui vont courir le soir du Seder et qui ne figurent pas dans les simanim, notamment la mitzvah de Haseba, donc la mitzvah de s'accouder, les Arba Kosot non plus, n'apparaissent pas en tant que telles, la Charoset, la Bracha de Boré Peri à Adama. Et il y a des raisons à tout cela, sans vouloir s'alourdir sur le sujet. Dans le Sefer Abou Daram, vous savez que c'est un des plus grands rishonim d'Espagne, donc dans le Sefer Abou Daram, et dans le Leket Yosher, il ramène d'autres simanim. En fait, ce n'est pas les mêmes simanim que ceux qu'on a. Il y a d'autres formulations, donc j'ai compté dans l'Abou Daram, il y a 6 sets de simanim différents, dont celui qui est le nôtre. Et à chaque fois, c'est des expressions poétiques de la manière dont le CEDER se déroule. Et c'est vrai que ça permet de fixer dans la tête, dire chacun d'entre nous connaît très bien l'ordre, le déroulé du CEDER. Et ce que rappelle ici le Rav Asher Weiss, c'est que finalement, si on n'avait pas ces simanim, probablement que on n'arriverait pas à mémoriser de la même manière. Donc il y a beaucoup de chachamim qui ont fait des choses comme ça. On a les Hazarot qu'on va lire à Shavuot pour les mitzvot. J'ai un sefer aussi, il y a plusieurs qui ont fait ça. Quelqu'un qui a mis tout le Shulchan Aruch en... Les Arba Chalkei Shulchan Aruch en sous forme de poème. Donc, bon, c'est plus ou moins un ou deux vers par siman, quoi. Donc, c'est très court, mais c'est extraordinaire. ou encore pour ceux qui sont des fidèles de synagogue ashkénaze qui n'ont pas renié leur tradition, quand on lit le Yotzer de Shabbat à Gadol, c'est extraordinaire. Il y a vraiment un résumé de Hilchot Pessah sous forme poétique qui est très court, très clair, très, très percutant. Voilà, tout ça pour dire que on sait pourquoi ici on est là, pour se préparer au Seder et aborder les choses de manière intelligente. Alors là, on va essayer de regarder plusieurs sujets dans le Maharal ce soir. Un premier sujet, donc il y a des sujets très très maharaliens, on va commencer par un sujet très très maharalien, c'est sur le Minyan Hamakot. Donc c'est à la page Kouf Memchet, pour ceux qui ont les photocopies. Donc le Maharal commence en disant « Da ki haolam haze ou olam ateva » Donc nous vivons dans le monde de la nature. « V'chacher hevi Hashem itbarach anissim al mitzraim hevi otam me olam ha'elyon » Donc on revient sur l'idée qu'on a abordée la semaine dernière, à savoir que Pessah est la seule fête dans laquelle la dimension du pshat n'existe pas et où l'ordre est inversé, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un ordre du bas vers le haut. En général, tout le travail de l'homme, c'est Iteruta Diltata. Donc on commence par faire un travail en haut pour susciter une Iteruta Dilaela. Et là, on voit que dans le cas de Pessah, donc Pessah, le Seder, comme on dit nos maîtres, le Seder, c'est Sod Drash Remez. Donc on descend du haut vers le bas et il n'y a pas de Pshat. Donc on voit que les Makot, de la même manière, les Makot qui sont tombés sur l'Égypte, c'est pas le résultat d'un travail qui a été fait par les Bnei Israël, c'est quelque chose qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu de manière unilatérale. Et donc ces makot viennent donc du Olam Ha'Elyon, du monde céleste, c'est quoi ? Le Olam Hanifdal, le monde séparé, dire le monde spirituel, Asher Misham Ba'im Anissim. Donc c'est intéressant, parce qu'ici le Maharal nous dit que les miracles ne viennent pas de ce monde-ci. Et qu'il y a beaucoup de théories chez les auteurs médiévaux pour réconcilier la rationalité de la nature avec le miracle, dans sa vision, on va dire, qui est plutôt kabbalistique du Maharal, ça ne le dérange pas, il nous dit que finalement, le miracle, c'est quelque chose qui vient d'au-delà, c'est quelque chose qui vient perturber la nature, et ce n'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, conciliable avec la nature. « Ul olam timtsa ki adavar shehu kadosh venivdal legamre ou asiri » Toute chose qui est séparée et qui est absolument sainte relève du 10. Donc c'est pour ça que tous les Dvarim chez Bikdusha, c'est Be'asara, d'accord ? On peut faire le Kaddish, la Kdusha, la Chazarat HaShatz, la Kriyat HaTorah, etc. Toutes ces choses-là réclament un Minyan, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, la Kdusha spirituelle, la dimension spirituelle complète, c'est le 10, qui correspond évidemment au 10 Sfirot, qui est Asiri, Tamid, Kodesh, Lachem. C'est toujours le 10e qui est considéré comme étant Kodesh, Lachem. Umi pnekar, et pour cette raison, kasher evi Hashem itbarach anisim min haolam hakadosh hanivdal el olam hateva hachomri, ayu asara. C'est pourquoi les plaies sont venues au nombre de 10. C'est-à-dire que si les plaies avaient été des plaies naturelles, elles auraient été au nombre de 7. Si les plaies avaient été d'origine naturelle, mais avec une dimension surnaturelle, 8. Elles auraient été au nombre de 8. Mais ici, elles sont totalement, elles relèvent totalement du olam hanivdal. Elle relève totalement du monde spirituel qui est séparé de la nature, et c'est pourquoi les makot sont au nombre de 10.
Pourquoi ? Parce que le miracle, on ne peut pas le définir comme quelque chose qui est naturel, qu'on ne comprend pas, et qu'on peut avoir avec le temps une explication. Donc là, ça veut dire qu'on ne le comprendra jamais. On n'a pas à rechercher la compréhension.
C'est-à-dire que ici, je ne sais pas si ici le Maharal parle de tous les miracles en général. On connaît la théorie du Rambam qui dit que les miracles sont des choses qui ont été programmées dans la nature et en ce sens-là.
Le Maharal dans l'Agdama du Kvorot, dans une des deux
Agdamot,
il dit ça. Il dit qu'il vient contredire.
Contre le Rambam, oui.
Trouver un malach logique.
D'intégrer le miracle dans la nature, ouais. Voilà. Mais je dirais que dans le cas de Pessah, c'est encore plus patent que dans tous les autres types de
miracles. Oui, mais dans la mesure où tu as dit que c'était un nombre de 10, alors que donc ça vient d'en haut directement et en bas.
Voilà.
Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'essayer de ramener que la nature, c'est une nature qu'on n'a pas,
oui,
pas une connaissance aujourd'hui. On
tout
l'aura
à fait.
Peut-être demain.
Dans sa vision, dans sa vision à lui, c'est comme ça. Ah. Il dit, c'est pour ça qu'ils sont au nombre de 10, qui madrigat olam anivdal, sheu nivdal min olam ateva, nershav, eser, neged olam azé. Et donc finalement, le monde du 10, c'est le domaine de la Kdusha. Le 10, c'est tous ces combinatoires, c'est-à-dire le 100, le Elef, Elef Amagen, Aelef Lecha Shelomo, on voit que Aelef Lecha Shelomo, ça veut dire que la Shlemut, elle est dans le 1000, elle est dans la triple. Le 1000, c'est quoi ? C'est 10 puissance 3. C'est la triple composition du 10. Omnam, ma she'amar Rabbi Eliezer, kol makar umaka shevi akadash bohu ala mitzraim, haïta shel arba makot. Donc on a une longue discussion dans la Agada qui toujours nous interroge. On en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière, de savoir pourquoi il y a toute cette discussion, enfin pourquoi il faut savoir combien il y a eu de plaies à la Yam, sur la terre, etc. Et chacun essaie de surenchérir, évidemment. Et ici, il nous dit en fait qu'on peut expliquer chacun des contes des Tanaïm par leur vision de la manière dont les Makot sont arrivés dans le monde. Selon Rabbi Akiva, selon Rabbi Eliezer, « Kol maka ou maka shivya kadosh b'chou al mitzrim haïta shel arba makot » La première chita, c'est la chita de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est en train de nous dire qu'en fait, chaque maka, elle était de 4. Elle était divisée en 4 makot. Ve Rabbi Akiva omer, shekol maka ou maka shivya kadosh b'chou haïta shel chamesh makot. Au contraire, Rabbi Akiva, il dit que c'était de 5. Davarze ou yoter amok. Il nous dit que là, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre, entre guillemets, c'est beaucoup plus profond que simplement de dire qu'on a 10 plaies et que les 10 plaies, elles viennent d'en haut, etc. C'est, entre guillemets, relativement simple. Mais là, on commence à rentrer dans des choses plus profondes. « Ki amakot ayu baot meolam anivda leolam ateva sheolam aribouy » Quelle est la différence entre le monde supérieur et le monde inférieur ? C'est que dans le monde supérieur, tout se rattache au 1. C'est pour ça que le 10, c'est un 1 avec un 0. Tout se rattache au 1. Et il n'y a pas de complexité, c'est le ratson apashut, comme on dit toujours, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, quand on veut exprimer la volonté de Dieu dans son unité, on l'appelle ratson apashut, le echad miyodea. Tandis que le monde d'en bas, c'est le monde du ribouille, c'est le monde de la multiplicité. Ulka hadavar shuba meolam anivda leolam ateva u mitrabe beolam azeh. Et donc lorsque quelque chose descend d'en haut vers le bas, il va avoir un processus de multiplication. C'est-à-dire que le spirituel ne peut pas rester dans son intégrité quand il descend dans le matériel. On sait qu'il y a la Ishtalshelut HaOlamot, que les mondes s'enchaînent les uns dans les autres, du haut vers le bas, que la lumière diminue, etc. etc. Mais en fait, pourquoi la lumière, ça veut dire quoi quand on dit la lumière se diminue? Donc le Hav Israël explique ça quasiment dans toutes les parachiotes, il revient sur ça, que, comme a dit le Harizal, que c'est comme ça que le monde a été créé, et que chaque olam, il reçoit exactement la quantité de lumière qui correspond à sa dimension, et que s'il recevait une once de lumière de plus, le monde dans lequel il arriverait exploserait. Donc il y a véritablement une adéquation parfaite entre la lumière qui vient dans un monde particulier et l'intensité de cette lumière. Mais en fait, cette dilution de la lumière, elle vient du ribouille. C'est-à-dire que le ribouille n'est pas forcément une multiplication, au sens propre du terme, mais c'est plutôt une division. C'est comme la division cellulaire, quoi. C'est-à-dire que ça se développe, mais ça se développe en se coupant. Il y a une fragmentation, fragmentation, je pense que c'est un bon terme. « Ulkar hadavar shuba meolam anivda leolam ateva umitrabe beolam azeh » Donc on a un sentiment de multiplication, bien que forcément, ce qui descend d'en haut vers le bas ne va pas garder la même intensité dans le monde inférieur qu'il avait dans le monde supérieur. Mais ça va, Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer ? Ki chel ke aribouy em arba. Donc ça, on a étudié en long, en large, en travers dans le ner mitzvah. D'accord ? On a parlé du 4 et du 5. Donc là, il va revenir là-dessus. Il nous dit que chel ke aribouy em arba. Quand on veut parler de la multiplicité, on parle du 4. Pourquoi ? Parce que le 4, c'est une répartition égale, c'est-à-dire qu'on coupe en 4, il y a les 4 points cardinaux, et c'est vraiment une répartition, entre guillemets, uniforme, ça part dans tous les sens, les cholat zadin. C'est pourquoi toute maka qui est descendue du haut vers le bas, elle a été multipliée, elle a été divisée ou multipliée, c'est la même chose en vérité, hein. La multiplication et la division, c'est la même chose, comme on apprend en maths. Donc, c'est multiplié par 4. Chaque maka, elle a été multipliée par 4. Uldat Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Haïta kol maka ou maka shel chamesh makot. On est au niveau du 5. C'est quoi le niveau du 5 ? Veze ki afalgav shaharibou yube arba'a. On n'est pas en train de dire que Rabbi Akiva est en désaccord avec Rabbi Eliezer dans le fait de dire que le 4, c'est le chiffre de la dispersion, c'est le chiffre de la fragmentation. Mais kol davar shebaolam afshesh bo ribouy aribouy umit ached. Quand on dit qu'il y a fragmentation du monde inférieur, du monde naturel, c'est pas une fragmentation qui est forcément visible aux yeux. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des éléments, il y a les quatre éléments, d'accord ? Les choses, toutes les choses sont faites des quatre éléments, mais ces quatre éléments, finalement, se retrouvent ensemble. « Ube'arba'a en ribouy mit ached rak mechulak » Lorsqu'on parle du quatre, c'est l'état de dispersion du spirituel, mais dans la dispersion absolue, c'est-à-dire sans réunion, sans reconstitution. « Aval mispar hamisha ou ribouy mit ached » Tandis que le cinq, c'est la dispersion qui ensuite se rassemble. J'appellerai ça la recomposition. C'est-à-dire qu'il y a eu décomposition du spirituel dans le matériel, et ensuite il y a une recomposition. Ulfichar kol maka ou maka sheba mina olam anivdal el olam aribuy aita shel chamesh makot shiur ribuy mit ached. Et c'est pour ça que selon Rabbi Akiva, on est dans la dimension du 5, parce que la maka ne s'est pas simplement démultipliée ou divisée dans le monde, elle a repris une concrétude, elle a repris une unité, mais une unité qui n'est plus une unité simple. Ça va être une unité composée. V'chaasher titbonen badvarim elu timtza omek amachloket.
Ouais. Je n'ai pas pigé l'histoire de la recomposition pour aller jusqu'à l'unité, alors que le 4, c'est la division, le 5, c'est la recomposition.
C'est le 4 plus le 1. C'est comme quand on dit en gematria, il m'a kolel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu es dans l'analyse et il y a un moment où tu es dans la synthèse.
Conserve sa forme, même si c'est quatre morceaux qui restent ensemble, entre guillemets.
Ouais, différents morceaux vont revenir se recomposer ensemble.
Il y a un liant, en fait, qui les conserve ensemble, même si, en soi, c'est quatre morceaux individuellement.
Et pourquoi ça ne ferait pas quatre ?
Parce qu'il y a le liant. Il y a ce liant-là qui permet de... Soit ce liant, soit ce nouveau 1.
Il vient d'où, ce nouveau 1 ?
Ce nouveau 1, il vient de la recomposition de ce qui est arrivé d'en haut.
Donc en haut, il y a 4 qui descendent.
En haut, il y a 10. Les 10 descendent, mais 10, c'est l'unité. Ça veut dire que tout ce qui descend, c'est de l'unitaire. Et quand on arrive dans le monde de la matière, on vient dans le monde du ribouille. Donc, il y a un fractionnement de cette unité. Alors, soit, selon Rabbi Eliezer, le fractionnement reste fractionné. D'accord ? C'est-à-dire que lui voit finalement la vision de Rabbi Eliezer. Vous savez que... souvent on dit que Rabbi Eliezer, il est Shamouti, d'accord ? Il y a le Shem Elohim dans son nom. Rabbi Eliezer, il voit l'absolu. Donc ce que voit Rabbi Eliezer ici, c'est que fondamentalement, la dimension spirituelle est fragmentée dans le monde. Il voit vraiment l'absolu. Et Rabbi Akiva ici, là, on ne sait pas une marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, donc je ne peux pas faire le malin. Mais ici, Rabbi Akiva, il voit une autre unité qui s'est recréée dans la matière, qui n'est plus l'unité spirituel du Olam Anivdal, mais qui est une reconstitution, quelque part, dans le monde matériel.
J'ai une question.
Ouais.
C'est quoi un afkamina de ça, finalement ? Qu'est-ce que ça change ? Qui est 4, qui est ça ? Ah.
Juste, on va finir, on va essayer de répondre à ça, mais c'est pas une question évidente. Hein. C'est quoi un afkamina ?
Parce que finalement, ils disent, ok, c'est 4, c'est 5, d'accord, ouais. Mais dans les faits, comment ça s'est appliqué ? Et comment...
Oui, par exemple, tu prends la première plaie, comment...
Qu'est-ce que ça fait ?
Je
reviens à ta question, parce que moi j'essaie de l'imaginer concrètement, comment ça va se réaliser.
Est-ce qu'il y a une chose qui s'est faite d'une certaine manière ? On a le résultat et on essaye de comprendre la décomposition chimique, entre guillemets, et de comment ça s'est fait.
Je vais donner un machal. Bon, moi déjà, je pense que le Maharal, ça n'intéresse absolument pas de savoir comment ça s'est passé. C'est pas du tout son inyan. Mais je dirais que c'est la différence entre une bombe atomique et une bombe à défragmentation, d'accord ? Donc soit il y a une maca...
Il faudra un machal plus simple.
Hein ? Non, c'est-à-dire soit il y a une maca qui va... Soit c'est une maca qui est dans l'unité... Soit c'est une maca, soit c'est la fission, soit c'est la fusion. Mais dans tous les cas, il y a explosion de la matière. Donc ça veut dire qu'il y a eu deux manières d'attaquer les Égyptiens. Soit tu dis que les Égyptiens ont été explosés, ou alors qu'ils ont été, entre guillemets, implosés, quoi. C'est pas tout à fait la même...
de faire une reconstitution.
Voilà. Peut-être pas au sens cinématographique du terme. V'chaasher titbonen badvarim elu timtza omek amachloket. Donc ouais, il va dans ton sens. Il dit quand tu vas essayer d'approfondir ces choses, tu comprendras le omek amachloket. Bon, on comprend pas toujours le omek amachloket du Maharal, mais en tout cas il nous donne espoir que peut-être un jour on va y arriver. Ki olam ativi yosh bo chamisha dvarim. Il dit que dans le monde matériel il y a 5 dimensions. Arba yesodot em arba. Vous savez que dans la philosophie aristotélicienne, dont le Maharal a repris le langage sans reprendre le fond, il y a la cause formelle et la cause matérielle. La cause matérielle, c'est la matière, la cause formelle, c'est la forme. Bon, chez Aristote, il y a encore d'autres causes, la cause finale, etc. Mais il y a en tout cas la cause matérielle, la cause formelle, la tsoura et le chomer. Et donc ce qu'il nous dit ici, c'est que dans le monde, il y a cinq dimensions. Il y a quatre dimensions qui sont en fait la cause matérielle, c'est les quatre yesodot, c'est les quatre éléments à partir desquels toute matière est constituée. Ve'achomer ameshutaf lekulam ou achamishi leashlim ou l'ached otam ve'enu imaem be'inyan echad klal. Et lui dit que le cinquième, c'est pas la forme, il dit c'est un chomer ameached. C'est de la colle, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est de la colle. C'est-à-dire qu'en fait, les éléments, une fois qu'ils sont explosés, ne peuvent pas se réunir sans une colle.
D'origine spirituelle.
Ici, visiblement, d'origine, c'est dans, on est dans le monde de la nature. Là, on est dans le monde de la nature.
Ah, mais c'est quoi alors la partie du monde naturel ?
Tu m'en demandes trop.
Non, mais il y en a.
Probablement, parce que là, moi j'aurais envie de dire que c'est la tsoura, mais sauf que là, il nous dit que c'est un inyan, il nous dit que c'est un inyan chomri. Il dit que c'est un inyan chomri. Mais je peux faire une pirouette parce qu'il écrit après Ve'en les farechoter. Voilà. On peut pas expliquer plus que ça. Ve'em dvarim amukim yotzim mi chokhma pnimit. Bon, là, vraiment, il a été quasiment explicite. Il dit dvarim amukim, des choses profondes, yotzim mi chokhma pnimit, qui sortent de la sagesse intérieure, de la pnimiyut Torah. Donc, c'est vraiment de la. C'est de la Kabbalah, quoi. C'est des choses auxquelles on peut pas forcément comprendre. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que même dans la matière, même si on dit qu'on est dans l'olam ativi, on sait que voilà, mechadesh beturu bechom tamid maase bereshit, quoi, kadosh baruch hu est en processus de création permanent du monde, et que s'il n'y a pas quelque chose pour unir les éléments matériels entre eux, si kadosh baruch hu retire sa volonté à un seul instant, tout repart en poussière. Donc c'est peut-être ça à quoi il fait allusion, et peut-être que même cette chose qui est parfaitement spirituelle se cache dans le monde derrière une écorce matérielle. C'est-à-dire que nous, ça nous fait penser à de la colle, mais en vérité, cette colle, cette tension qu'il y a entre les petits électrons et les petites particules qu'il y a dans la molécule, en fait, cette tension, c'est quoi ? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait que les choses tiennent ensemble. D'accord ?
Oui, c'est le Ratson, quoi, l'Akadosh
Baruch Hu. Exactement, on peut dire que c'est le Ratson Hachem. Voilà. Je ne sais pas si notre interprétation elle est bonne, mais voilà. Veim kashelecha. Il dit maintenant, si c'est difficile pour toi, tu comprends pas. Mayu ribu yamakot alayam ou bemitzraim. Donc, ça, c'est votre question. C'est de dire finalement ça, en quoi ça consiste cette histoire. Maynaf kamina. En bazekushia, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Sharef shar shamaka ha'acha titralek le kama makot. C'est possible qu'une maka, elle se divise en plusieurs. On avait dit encore plus, la semaine dernière, on avait rappelé le Zohar Kadosh qui dit que non seulement les makot, elles se subdivisaient, mais qu'une maka, c'était une refoua pour une maka pour un égyptien, c'était en même temps une refoua pour un juif. Donc on voit que dans la volonté divine n'a pas de limite. Ve'alotir'e, ki adam sheika et acher bemakel, quelqu'un qui frappe son prochain avec un bâton, yesh bamaka azot, tu termines maka achat. Il lui fait un bleu à droite, à gauche, il lui fait une gratignure ici, etc. C'est pas parce qu'il a donné un coup qu'il y a un seul stigmate sur le corps de la personne. Ve'od na'aseba mursa ou shechin. Donc ça peut encore lui causer d'autres complications cutanées. Kolze hu minakat amakel. Tout ça, simplement parce qu'il a donné un coup. Il y a ce que fait le coup sur le moment, il y a les conséquences du coup a posteriori, il y a le etc. Ve'chen efshar lomar. Kol maka ou maka titralek le kama shinuim arbe me'od ve'kulam em nichlalim b'maka achat. Et la deuxième manière de comprendre, c'est un petit peu comme les melachot de Shabbat. C'est-à-dire chaque maka, c'est entre guillemets une catégorie. Et dans cette maka-là, il y a toutes sortes de makot. Quand on dit arov, c'est quoi arov? C'est les bêtes sauvages. Bah, des bêtes sauvages. Ce que peut faire un rhinocéros, est-ce que peut faire un lion, est-ce que peut faire un tigre, est-ce que peut faire, je ne sais pas encore quel animal on peut imaginer, un léopard. C'est pas forcément la même chose. Là, il va écraser, l'autre il va déchirer, l'autre il va avaler. Donc c'est une plaie qui est globale. Mais dans cette plaie-là, il y a toute une série de makot. Et donc le chidouche, c'est que non seulement sur la terre, c'était comme ça, mais aussi à l'ayam, c'était comme ça.
Mais on laisse la nature faire, donc il n'y a pas une division de ces bêtes sauvages. La division de ces bêtes sauvages, c'est quoi? C'est leur nature. De lion, c'est de manger. Le rhinocéros, c'est d'écraser.
Oui, mais de la manière que Dieu a envoyé les
grenouilles. Tu n'as rien apporté comme. Il n'y a pas quelque chose qui vient de plus.
Parce que si tu regardes les grenouilles, c'est la même chose. Là, on peut prendre l'exemple contraire. La grenouille, c'est un seul animal, d'accord ? Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Ils sont rentrés dans les fours, etc. Ça veut dire qu'on voit déjà dans la Torah, avant même d'arriver au Tanaïm, si on lit le pshat du Chumash, on voit déjà qu'il y a une multiplicité d'applications. D'accord?
Qui n'est pas dans la nature.
Qui est dans la nature qui est dans la nature de la nature. C'est-à-dire que chaque chose dans la nature est multidimensionnelle. Simplement, nous, on aurait pu penser que quand HaKadosh Baruch Hu, il envoie une maca, c'est une maca unitaire, parce que Dieu, il est unitaire. Il te dit non. Lorsque Dieu envoie une maca dans le monde, alors l'unité divine va se répercuter dans la multiplicité qui est la nature de notre monde. Et donc, finalement, là où Hachem a donné une impulsion, cette impulsion, elle s'est divisée en 10 makotes. Et ces 10 makotes elles-mêmes, elles se sont divisées en 4, elles se sont divisées en 5, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'enchaînement de causalité. Du fait qu'au niveau d'Akadash Baruch Hu, il ne peut pas avoir autre que de la Pshitout. Il n'y a que la Pshitout. C'est que l'unité. C'est-à-dire qu'Akadash Baruch Hu, on peut dire qu'on peut le limiter, mais sa pensée, elle englobe déjà tout. Donc rien qu'il pense à la chose est, et cette chose englobe tout en potentiel. Mais pour passer au réel, quand on passe du potentiel au réel, c'est là où on passe de quelque chose qui était une idée à une multiplicité de détails. C'est la même chose dans notre vie. D'accord ? Ouais. Quelqu'un qui a une idée, il dit par exemple, je veux écrire un livre. Donc lui, il pense à écrire un livre. Mais en fait, quand il va écrire ce livre, ça se transforme en quoi ? 200 pages, 300 pages, chaque page, il y a des idées, il y a des trucs, il y a des index, il y a des tables de main. C'est-à-dire qu'on part du concept, à chaque fois qu'on est au niveau du concept, on va dans le niveau de l'unité, même si évidemment, il peut y avoir de la complexité dans le concept, mais le concept fondamental, c'est ce qu'on appelle la pensée première, entre guillemets, c'est une pensée qui est élémentaire. Et quand on dit élémentaire, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Ça veut dire c'est le yesod, c'est ce qu'on dit le yesodi, c'est la chose la plus fondamentale. Et quand on va aller, plus on va vers la réalisation de la chose, plus on va rentrer dans le détail. Souvent quand on a une tâche à faire, qu'est-ce qu'on voit? On dit quoi? Il faut faire tout ça.
Oui, mais c'est la composition.
Et pourquoi? Et oui. Et donc on peut être désespéré parce qu'on voit la multiplicité, tandis que si on arrive à voir au-delà de la multiplicité quel est le 1, alors on est sauvé. On avait dit une fois, quand on a étudié, je pense que c'est dans le... Je ne me souviens plus dans quel chiour, mais on avait parlé de ça, que la spécificité de la Torah, c'est que chaque chose est liée à tout. Donc vous connaissez le Midrash qui est célèbre, sur lequel toute la Torah est dans le Sefer Bereshit, et que toute la Torah est dans le mot Bereshit, et que toute la Torah est dans le Bet de Bereshit, et que toute la Torah est dans le point qu'il y a dans le Bet de Bereshit. Et en vérité, quand on étudie la Halakha, par exemple, de manière sérieuse, Be'iyun, on se rend compte qu'il n'y a pas une sugya dans Orach Haïm, où il n'y a pas des répercussions dans Choshen Mishpat, dans Even Ha'ezer, dans Yoredea, c'est évident. C'est-à-dire que, comme disent les Chassidim, comme c'est marqué en Sefer HaTanya et dans d'autres Sfarim, à partir du moment où tu es en contact avec la Kedusha, même si tu tiens un fil du bout du manteau du roi, tu es déjà en contact avec le roi. T'es en contact avec la totalité de la Kedusha. Donc vraiment l'élément, ce sur quoi insiste le Maharal, finalement c'est de nous aider à voir dans le monde la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit, quand tu vois la multiplicité, ne pense pas que la multiplicité elle est multiple par essence. Il y a multiplicité dans le monde parce qu'en fait, la pshitut de la Kedusha, du Yichud d'Akadosh Baruch Hu, est impossible à concevoir pour l'homme, elle est inacceptable. La seule chose qui a été possible, miraculeusement, c'est que Shtaimzu Amarti, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu peut prononcer deux choses en une et qu'on les a entendues, mais c'est la seule fois où on a pu entendre deux choses en... C'est le seul moment. Et là, c'est rien que deux. C'est-à-dire percevoir que deux font un, c'était quelque chose qui était déjà au-delà de la possibilité. Bon, ils sont morts, d'accord ? Par Hanishmatan, c'est-à-dire qu'en fait, la révélation était insupportable. Parce qu'elle était ça explose toute la dimension de la matière. Donc quand on dit combien de makot il y a eu, etc., d'abord on nous dit, comprends bien que les makot, elles descendent d'en haut. Ça, c'est le premier élément important qu'a dit le Maharal ici. Et le deuxième élément, il nous dit, vois dans la multiplicité la présence d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne croit pas, au contraire, que si c'était... que si c'est multiple, c'est parce que c'est du matériel, etc. Non, c'est parce que la Kedusha a besoin de se fragmenter pour pouvoir descendre dans le monde. Bon, donc quand même, je vais sauter le passage d'après. On va regarder à la page Koufnoun. Il y a un petit passage sympathique sur Pessah Matzah Maror. Alors on a la Memra dans la on a la Memra dans la Agada que Kol Michelo Amar Shoshat Varim Lo Pessah Lo Atzei Dechovato. Il y a plusieurs explications. J'avais rapporté dans le livre l'explication du Torah Tmima. Le Torah Tmima, il dit que le Tana il est sauver que Mitzvot Srichot Kavana. C'est pour ça qu'il faut dire Pessah Matzah Maror. Il faut le dire. Il faut dire qu'il faut avoir l'intention. Que celui qui aurait mangé sans kavana, il serait pas yotze de la mitzvah. C'est pour ça qu'il yotze, il y a des chovato. Mais ici, donc, le Maharal va suivre son, va suivre sa lecture symbolique et va essayer de nous expliquer, enfin, nous, lui va nous expliquer, nous va essayer de comprendre ce qu'il nous dit sur c'est quoi la dimension de Pessah, Matzah ou Maror. Alors, le Maharal commence en disant, Yeshlecha la da'at, qui a Pessah ou Atzmo, Mashi Israël, Hem Lachem. Il dit que Pessah représente en lui-même ce que Israël est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Kemo shinit ba'er pe'ami marbe meod. On l'a beaucoup expliqué. Ve'achar ha'madriga ha'eliona azot nimshechet achar ze ha'geula. C'est-à-dire que c'est rapporté dans Rashi. Nous, en général, on retient surtout l'explication classique que Pessah s'est passé par-dessus. Pessah, Passover. On a sauté par-dessus les maisons des Juifs. Mais Rashi explique ou passarti vechamalti. C'est-à-dire que la notion de Pessah, c'est la notion du chesed absolu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est quelque chose qui provient juste de la volonté divine, un éveil d'en haut, c'est l'amour. C'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Israël. Et c'est pour ça que Pessah correspond au lien ou à ce que représente Israël aux yeux de Dieu. Et de là sort la Géoula. Parce que la Géoula ne peut venir que de la volonté divine. Venimshach acharze gamken ashiabud kasher mekabel raoui leze. Veakol umitzat sheshlem adrega iliona azot. Mais il faut comprendre, et ça c'est très difficile pour nous, que de la même source que provient la Géoula, provient le shiabud. C'est-à-dire la délivrance vient de la même source que l'esclavage. Parfois, malheureusement, on a une vision un peu antinomique, d'accord ? Comme si on était chas v'shalom manichéen. Il y a le bon Dieu et il y aurait chas v'shalom le mauvais Dieu. C'est-à-dire, parfois on prend des coups, parfois il y a une géoula. Alors quand il y a un chien boud, on s'affole. Et quand il y a une géoula, on est content. Mais en fait, on ne voit pas que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un père qui corrige son enfant et un père qui donne une récompense à son enfant, c'est la même chose. C'est un père qui éduque son enfant. Mais nous, en tant qu'enfants d'Akadosh Baruch Hu, on ne veut voir que la dimension positive. Et comme souhaitait toujours le Rabbi Lubavitch, qu'il bénissait toujours les gens, Batov anigle v'anir'e. C'est-à-dire, on sait que Akadosh Baruch Hu, il donne le bien dans tout ce qu'il fait, que parfois on ne le voit pas. Il dit, mais quelque part, on n'a pas envie d'avoir le bien d'Akadosh Baruch Hu d'une manière qui est invisible aux yeux. On veut Batov, banir'e ou banigle, que le bien soit dévoilé et visible, qu'il soit palpable. Mais ce que nous dit ici le Maharal, il dit, il faut comprendre que dans la dimension de Pessah, c'est-à-dire la dimension de Yehidut, de Yehudiut plutôt, la dimension de spécificité du Ham Israël par rapport à Kadash Baruch Hu, dans cette dimension, il y a et le Shiabud et la Geoula. Parce que tous les deux signifient que nous avons une relation particulière à Kadash Baruch Hu, et tout ça dépend quoi? Tout ça dépend, comme il l'a dit, Kacher amekabel raoui lezé. C'est-à-dire qu'en fait, le Ham Israël, malheureusement, parfois veut se défaire de la relation avec Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'on vient nous dire ici, c'est tu peux rien faire. Le lien est indéfectible, d'accord ? On ne peut pas rompre le lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Maintenant, en fonction de ton statut, en fonction du Mekabel, le Mekabel c'est l'homme, en fonction du statut du Ham Israël, alors on va être dans une situation de shiabud, on chas v'shalom, ou dans une situation de geoula. Mais ça ne change rien au fait que le lien est indéfectible. Ulfichach ha-pesach nechal al-matzot u-morim. Et de là on comprend qu'on mange le korban pesach avec de la matzah et avec du maror. Normalement, si tu veux être en chérout, d'accord ? Il y a toute la discussion au début de la Gemara, pourquoi on met matril bignaï, etc. Pourquoi on commence par rappeler nos origines peu honorables. Et on peut se dire, dans le rituel de la consommation du Korban Pessah, on pourrait imaginer une soirée où on fait aussi comme ça Migna et Lishvar, et d'ailleurs on fait un peu, on mange la matzah, on mange le maror, et après on pourrait dire, bah maintenant je passe à la Géoula, je mange la viande grillée. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de me la manger avec... Ça y est, j'ai déjà mangé la matzah, j'ai déjà mangé le maror, je me suis déjà farci le shiambou de Mitzrayim, d'accord ? J'ai déjà passé l'amertume, etc. Pourquoi maintenant tu veux encore me... Au moment où je suis dans la Géoula, je suis en train de manger la viande grillée des corbanotes, tu veux me faire avaler avec ça encore des herbes amères ? Alors il dit, c'est pour ça qu'on mange ça ensemble. « Ki a Pessah al Shoum, she Pessah al Batei Israël, ve lo haya mashrit baem. » La raison pour laquelle on mange le Korban Pessah, comme tout le monde le sait, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a épargnés et que l'ange destructeur n'est pas rentré chez nous. Vezeu bishvil chez Israël, em chez Hashem itbarach. Et c'est parce qu'on est le chélek de Dieu. On appartient à Dieu. Le sang qui a eu sur les linteaux n'est qu'un signe. Hein, vous savez, souvent dans les chakirot, on dit c'est Siba ou Siman. D'accord ? C'est pas une siba le sang de c'est pas parce qu'on a mis le sang que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Le sang c'est le siman que nous appartenons à Akadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire que c'est par notre essence qu'il nous a sauvés.
Par notre essence. Si on n'avait pas mis le siman, par contre, ça veut dire quelque part on renie notre attachement à Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là,
il saute par rapport à notre essence, quoi qu'il arrive, même si je mets pas, j'aurais dû être sauvé.
Oui, d'accord, mais il attend que l'homme.
Ils étaient déjà à un niveau d'impureté énorme.
Il attend que l'homme, même à ce niveau d'impureté, et encore plus, comme on sait dans les Sfarim, que c'est au moment où tous les Nian dans le Tania doivent avoir mes souterrains, c'est ça. C'est qu'au moment où tu vas forcer l'homme à aller au pire du pire, c'est à ce moment-là qu'il va donner un coup de pied du fond de la piscine et qu'il va remonter. Donc là, au moment où ils étaient au pire du pire en Égypte, ils disent, regarde, mets un siman. Sache que t'es un juif. Tu te reconnais comme juif, mets un siman. Donc on a mis un siman. Ou min madrega eliona chez Israël em chez la kadosh baruchu davarze mevi geula ou mive mirirut. Il dit voilà, il faut comprendre ça. C'est le sod du destin du Ham Israël. C'est-à-dire que le fait qu'on appartienne à Kadosh Baruchu nous apporte aussi bien l'amertume que la geula. C'est très dur comme phrase.
Tu peux le répéter.
Je répète. Ou min madrega eliona chez Israël em shel akadosh baruch hu. Du fait de ce niveau exceptionnellement élevé qui est celui d'Israël, à savoir qu'ils appartiennent à akadosh baruch hu. On est la propriété de Dieu. Davarze mevi geula, cette chose entraîne la délivrance, ou mevi merirut, mais amène aussi l'amertume. Ki ken notenet amida kasher em shlemim yeshlem geula. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, souvent on se dit, comment on peut dire dans la théologie, entre guillemets, pour utiliser des gros mots, que Dieu ne change pas. Ben ça, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit que ne crois pas que la relation qu'Akadosh Baruch Hu éprouve vis-à-vis de toi, elle change. Elle ne change pas. Ce qui change, c'est le mekabel. C'est le réceptacle. Parfois, tu es digne de recevoir la Géoula. Parfois, les Son et Israël, ils sont dignes de recevoir la Mérirut. C'est-à-dire que le chiamboud vient d'un chissaron, bien que c'est marqué dans la Haggadah Anus Alpi Adibour, qu'on a obligé Yaakov à descendre en Égypte. Il ne voulait pas aller en Égypte, Yaakov. On l'a obligé, par la parole de Dieu, de descendre en Égypte, etc. Mais malgré tout, il y avait un tikkun à faire en Égypte. Pourquoi il y avait un tikkun? Parce qu'il y avait un défaut. Donc c'est-à-dire que la mériroute de l'Égypte, même si on a été forcé d'y aller, cette mériroute de l'Égypte, elle venait d'un problème au niveau du Ham Israël. Et donc Dieu, finalement, il est dans une immutabilité dans sa relation au Ham Israël, c'est-à-dire que jamais il ne coupe le lien. Mais simplement, encore une fois, le machal simple, qu'il agit comme un père qui n'aime pas son enfant ne le punit pas lorsqu'il fait quelque chose de mal. Je m'en fous, qu'il fasse ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas.
On pourrait penser que la mériroute, si j'avais pas mangé ensemble du coup, on pourrait penser que justement la mériroute, ça voudrait signifier que c'était dû à l'absence d'Akadosh Baruch Hu. On se dit non, mange-le ensemble parce que justement la mériroute, c'est aussi Akadosh Baruch Hu.
En fait, on aurait pu tomber dans ce qu'on appelle l'antinomie, dire croire qu'il y a deux Chas Veshalom, qu'il y a deux Réchouillot. qui a le, comme les manichéens à l'époque de la Gemara, selon beaucoup, c'est ça la faute de Acher, de penser qu'il y a un dieu du bien et un dieu du mal. Le dieu du bien, il a pensé que quand tu fais Kansipor, etc., alors ça c'est la Harichut Yamim, et le dieu du mal, il a décidé que l'enfant il va tomber, il va mourir. Et donc on aurait pu penser comme ça, on aurait pensé que soit qu'il y a deux réchouillottes, on aurait pu penser, même sans penser qu'il y a deux réchouillottes, mais qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, dans son ratson, il change. Un jour, il a envie de nous faire du bien, un jour, il a envie de nous faire du mal, mais on ne voit pas, et ça vraiment, c'est quelque chose, je pense, c'est l'idée la plus puissante qu'il y a dans tous les Sifrei Maharal, c'est cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les incompréhensions que nous avons sur le monde, généralement, c'est parce que nous voyons le monde à partir de notre perspective, c'est-à-dire, on regarde le monde de bas en haut, alors qu'en vérité, il faut regarder le monde de haut en bas. Et si tu regardes le monde de haut en bas, tu crois qu'Akadash Baruch Hu, il n'y a pas de chinoui chez lui, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de modification, il reste notre père, il reste Avinu, Malkenu, etc. Mais nous, on change.
0580.
Nous, on change. Et donc, du coup, dans une communication, il y a l'émetteur, mais il y a le récepteur. Si tu as un super émetteur, mais que le récepteur est pourri, le son, il sera mauvais. D'accord ? Ou alors tu vas perdre ton drone, d'accord ? Le pilotage va être mauvais, d'accord ?
Oui, mais le récepteur, qu'est-ce qu'il le fait ? C'est Akadosh Baruch Hu ?
Non, c'est nous le récepteur.
Oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire que c'est par rapport à...
Ça veut dire que si on prend ce machal...
Il nous a mal formé.
Non, il nous a pas mal formé.
Bah, pourquoi tu dis ça ?
Il nous a pas mal formé.
Il nous a obligé d'aller en Égypte. Il nous avait vraiment besoin d'aller dans un pays...
Visiblement, on avait besoin d'aller, à cause de nos défauts.
Et pourquoi t'es passé par l'exemple du sang ? Justement, c'était un bon signe, ça. Enfin,
Non, j'ai juste pris ça pour dire que la cause fondamentale du fait qu'Akadosh Baruch Hu a épargné le Ham Israël, c'est parce que c'est le Ham Israël. Dire à la limite, si on veut aller jusqu'au bout, évidemment, on sait que c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a les Bedam Aïchaï deux fois, que le Dam Mila et Dam Pessah, etc. Tout ça est vrai. Mais on va dire, dans l'absolu, on aurait pu penser que même sans ça,
Ils auraient
été sauvés.
Est-ce qu'on peut pas dire sur ça que c'est pas parce qu'on a mis le sang qui nous a sauvés, mais si on n'avait pas mis le sang, là ils nous auraient pas loupé.
C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le sang n'est pas la siba du fait qu'on était sauvés, mais c'était le siman du fait que nous aussi on accepte d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ve'od achar she'apesar kemo she'amarnu le'mala more al she'anachnu le'Akadosh Baruch Hu, après qu'on a dit que le fait que le Pessah, que le Korban Pessah enseigne que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, ou Bishvil Kach Yeshetia l'Israël min Reshuta Omot, et c'est parce que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu que nous pouvons sortir de la galoute des nations. Kiwit Barach Eloheh Elohim Amoshel Alkol Akochot Valkol Aumot, c'est d'actualité. À Kadosh Baruch Hu domine toutes les forces, domine toutes les nations. Ou Bishvil Ze Anu Yecholim Latzet min Reshuta Omot. Et c'est la seule raison pour laquelle nous pouvons nous défaire de l'emprise des nations. Ve'im loken, be'ezet sad anu yecholim latzet mirshut Mitzrayim. Quand on regarde les choses de manière rationnelle, comment le Ham Israël, un peuple d'esclaves qui était là-bas depuis 210 ans ou plus, qui n'avait plus aucune identité, qui n'avait plus aucune liberté, qui était entièrement asservi, qui avait aucune liberté intellectuelle ou spirituelle pour pouvoir penser à autre chose, comment il pouvait sortir ? La seule explication plausible de la sortie d'Égypte, c'est que nous appartenons à Hachem et que c'est lui qui nous a sortis de là-bas. Et de la même manière que nous appartenons à Dieu, et que de ce fait-là, il nous fait sortir. On dit, c'est pas possible ce peuple. Ça fait 2000 ans qu'on s'en prend plein la tête. Bon, l'Égypte, c'est plus vieux que 2000 ans, hein, mais bon, ça fait des millénaires qu'on s'en prend plein la tête. Partout où on va, on est persécuté, Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu récoltes, d'où la révolte contre Dieu. On voit la révolte contre Dieu, parfois à bon escient, parfois à mauvais escient. D'accord ? Dans Iyov, on voit ça. On voit ça dans la Chassidoute, on voit ça déjà dans le Midrash. Mikamocha ba'elim Hashem, mikamocha ba'ilemim. Comment le Midrash peut dire une chose pareille ? Quand j'étais jeune, je lis ça dans un livre, je dis, c'est un apicoros, le gars qui a écrit ça. Et après, je vois la note, je dis, ah mince, c'est du Midrash. Comment on peut imaginer que le Midrash, il puisse dire une chose comme ça ? Mikamocha ba'ilemim Hashem. Comment Hashem, tu peux être muet devant les souffrances du Ham Israël ? Alors en fait, cette révolte-là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui traduit Akadash Baruch Hu en justice devant un Beit Din, d'accord, pour lui dire comment tu peux faire ça au jeu. Moshe Rabbeinu, pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi Areota la Amazé. Depuis que je suis arrivé, tu sais encore plus de mal. Donc on voit qu'il y a cette révolte. Il y a cette révolte vis-à-vis de Dieu. On se révolte vis-à-vis d'une certaine injustice divine. Et ici, qu'est-ce que vient nous dire le Maharal? Il dit, sache que toute la Mérirou, toutes les galères du Ham Israël, toutes les souffrances du Ham Israël, c'est parce qu'ils appartiennent à Hachem et que ça les oblige à un comportement d'élite. Vitem li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et c'est pas facile. Regardez, même dans la famille royale anglaise, il y en a qui sont partis. Ils ne se portaient plus la pression. C'est insupportable. Nous, ça fait des millénaires qu'on fait partie de la famille royale céleste. Et il y a des générations où ça passe plus ou moins bien. On essaie de se libérer. On part à Woodstock, on part en Inde, on essaie de... Voilà, on essaie de voir autre chose, quoi. C'est d'oublier. D'oublier qu'on est un... voilà. C'est ce qu'a dit Rabbi Aaron de Caroline. Il dit, le plus grand Yetzer Hara, c'est d'oublier qu'on est un Ben Meller, qu'on est un prince. Et moi, je comprends dans cette phrase-là que l'essence du Yetzer Hara, c'est l'oubli de la noblesse du Ham Israël. Mais comme on dit en français, noblesse oblige. Donc la noblesse oblige le Ham Israël à un certain comportement. Et malheureusement, lorsque le noble ne répond pas à l'exigence de son rang, ça fait mal. Nous savons que chacune des nations a son sar, a son prince, a son malach, sa figure dans le Kuzari. Et bon, plus tard, on l'a vu chez Herder également, le Volksgeist, exactement ça. C'est-à-dire que chaque peuple, il a véritablement une dimension spirituelle, idéologique qui lui est propre. Sharei kol achat ve'achat min ha'umot yesh la sar u'malach miyuchad, aval Yisrael she'en lahem sar u'malach miyuchad, ki hem el Hashem yitbarach kasher hem bishlemut ma'alatam. La différence entre Israël et les nations, c'est que chaque nation, elle est sous un prince, sous un malach, sous un ange, tandis que nous, on est rattaché directement au patron. C'est pas pour rien que chez nos voisins, chez nos voisins de Nazareth, on parle du Fils de Dieu, d'accord? C'est pas pour rien. Dire qu'en vérité, c'est le détournement du concept initial.
On parle de la Trinité, tu veux dire?
Non, pas du tout. Je parle du fait qu'il y a le entre guillemets être enfant. Bani matem l'Hashem Elohechem. On n'a pas attendu des hérésies apparaissent dans l'homme Israël pour le savoir. C'est la Torah Beferouche. Et donc nous, on est Beshlemut Ma'alatam, c'est-à-dire que le fait d'être attaché directement à Kadosh Baruch Hu, c'est la Shlemut. She'az emreuim el Hashem Itbarach. Et quand on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, on est Ra'ouï, on est en osmose avec Hashem. V'chasher emna mishlemut ma'alatam, em ne'ezavim ve'em nichnasim b'rshut acherim. Par contre, lorsque on perd, Chas v'shalom, le lien avec Kadosh Baruch Hu, il n'y a personne pour nous défendre. Parce que les autres, chacun a son sar. Il y a le sar de l'Égypte qui va se battre avec le sar de Hachour, le machin, etc. Mais nous, c'est soit on est avec Akadosh Baruch Hu, Mil Hashem Elai, comme ils ont dit au Mashle Makabim, Mil Hashem Elai, soit on est avec Hashem, soit on est avec personne. Il n'y a pas de malach, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça que Davka, le soir de Pessah, on dit Lo Alié des Malach, Velo Alié des Saraf, Velo Alié des Chaliar, pour que tu comprennes bien que contrairement aux nations, toi, ton salut, il ne vient Ezri Meim Hashem Ose Shama Imvaret. Il n'y a pas d'intermédiaire.
Et donc, ouais, ils peuvent se détacher, les autres nations, de leur sar?
Non.
Comme nous, on peut se détacher du sar.
Non, eux, c'est le mazal. Eux, c'est leur mazal. Eux, ils sont attachés à leur mazal. Ils ne peuvent pas se détacher.
Et pourquoi nous, on a cette capacité de pouvoir se détacher?
Parce que Davka en mazal Israël, Akadosh Baruch Hu nous a créés sans mazal. Donc là, on n'est plus dans une dimension naturelle qui est une causalité, en fait, que tu ne peux pas casser. C'est une causalité quasiment matérielle. Ouais. D'accord? Tandis que nous, on est dans du Nifdal. Donc, dans le Nifdal, c'est pas évident. Parce qu'en fait, on est avec le spirituel, avec le matériel. Donc, il y a soit une connexion, comme on a expliqué plein de fois dans le Netiva Torah, etc., etc. Soit il y a une connexion du fait que la Neshama, elle est posée dans l'homme en partie, mais qu'en fait, elle est en grande partie à l'extérieur de l'homme et qu'elle touche jusqu'au Kissé Akavod. Donc, c'est-à-dire que finalement, on a quelque part un fil qui nous relie en permanence à Kadosh Baruch Hu. Le jour où, entre guillemets, on est mégaresh notre neshama, on dit ouais, la spirituelle, la dimension spirituelle qui est la mienne, ça ne m'intéresse pas. Alors, il n'y a rien pour nous retenir.
Il y a toujours, pas, mais il y a toujours ce lien.
Il y a ce lien, mais il est totalement endormi ou il est caché. Il est éludé, il est je sais pas que le terme vient pas, mais il est totalement exclu en fait, on le voit plus. Il est évacué.
Il est pas rompu.
Tandis que, mais pas rompu, mais ça, il faut arriver à une certaine condition pour que l'homme se réveille et prenne conscience qu'il y a ce lien avec qui il a avec Akadosh Baruch Hu. Et parfois, malheureusement, il y a des gens qui prendront jamais conscience de ça. Chez Loïdar Menounidar, mais non, mais ici, tandis que le sard des nations, il y a pas de, ça s'arrête pas.
D'accord, mais s'ils ont mis le sang, donc à un moment donné, même s'ils étaient intégrés, un détachement, donc ils ont quand même.
Il y a une preuve.
Justement, donc le fait d'avoir mis le sang, c'est le siman qu'ils ont conscience et ils ont dit, c'est vrai qu'on avait entendu de. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu l'a dit quand vous entendrez, vous avez reçu de vos pères. Qu'il y a quelqu'un qui vous dit Elo Avraham, Elo Yitzhak, Velo Yaakov. Donc, il savait que c'était ça le mot de passe. D'accord ? Et d'ailleurs, on a voulu nous le voler. Vous savez que c'est connu. Bon, je suis désolé de faire parfois des petites diversions extra-curriculaires. Mais on a trouvé dans les vêtements de Pascal, Blaise Pascal. Ouais. Donc, Dieu d'Avraham, d'Isaac et de Jacob, et non pas Dieu des philosophes. C'est-à-dire, c'était cousu dans ses vêtements. Il y a conscience que la ségoula, la véritable ségoula du lien avec le divin, c'est pas de la théorie, c'est l'histoire du Ham Israël. Et donc, ce que dit le Midrash, c'est que quand ils ont entendu Elo Avraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov, ils avaient entendu leurs parents. Et leurs parents leur ont transmis, comme nous on transmet à nos enfants chaque année à Pessah le récit de la sortie d'Égypte, qu'eux aussi ils ont entendu de leurs parents. Ils ont entendu le mot de code. Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est que c'est bon. Et ça, quand ils ont entendu ça, ils ont cru Vayaminu, Vimlo Yaminu, donc toute la discussion dans Parashat Shemot entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, mais ils ont fini par croire avec les prodiges, avec le discours qu'il aura tenu, etc. Et quand ils ont mis le sang, c'était la manifestation du fait que. Ils ont repris conscience, malgré tout ce qu'ils avaient sur la tête, ils ont repris conscience qu'ils étaient les enfants d'Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et ce que leurs parents leur ont enseigné, c'est pas des mythes, comme on peut lire malheureusement dans certains livres israéliens, le mythe du déluge, le mythe de ceci, le mythe de cela. Certains lisent la Torah comme la mythologie de grec. D'accord ? Donc nos ancêtres en Égypte, ils ont entendu que ce qu'ils avaient reçu de leurs parents, c'était vrai. Et que le message qu'on leur avait, le mot de code qu'on leur avait donné, Moshe Rabbeinu est venu avec le mot de passe, il a dit si c'est ça, c'est vrai. Alors donc je mets le sang, je suis un Ben Israël, et la Géoula elle va venir par là.
Ils étaient aussi détachés que ça ?
Ils étaient, on dit, qu'ils étaient au 49e degré de la Touma. Ils étaient. Ils connaissaient, mais ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient oublié. C'est comme quelqu'un, tu lui dis, il va te dire, je descends d'eux. Mais dans sa vie, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est comme ce qu'on dit sur Korar, Ben Izar, Ben Kehat, Ben Lévi.
Ah ouais.
Et pas Ben Israël.
Souvent, parce qu'ils ne vont pas toucher son.
Dire que dans Divrei Hayamim, quand il s'agit de d'ascendance biologique, on dit Ben Israël. Ben Yaakov. Je crois Ben Yaakov.
Ah, c'est Ben Yaakov.
Et dans Korar, où on ne parle pas d'une ascendance biologique, on parle maintenant de ce qui se passe, de l'événement de Korar, il dit s'il te plaît. J'ai rien à voir avec ces gens-là. Chez Altomar, qu'Israël aime. Meshutafim, Imahumot, ne va pas dire que les Bnei Israël sont associés aux nations. Sheimayu Meshutafim, Imahumot, Ad Shechaz Veshalom, Hayu Lechelek Malach. Donc ça répond à ta question, Hervé. C'est-à-dire que s'ils étaient associés avec les nations au point qu'ils deviennent soumis à leur Malach, le génie germano-juif. Ou le génie germano-français, judéo-français, etc. Tout ce ignan que il y a vraiment ce, ça nous plaît parce que quand on est en galoute, on a envie de, on a envie que ça se passe bien, on n'a pas envie de souffrir. Chez Az Shayach Bazé, En Kuach Nogia Bemuchan Lachavero. Il dit que rien ne peut empiéter sur ce qui est prévu pour l'autre. Aval En l'Israël Shivui Imaumot. Mais tu ne peux pas comparer Israël avec les nations. Kidavar shesh lo shivui macher, venatan la zechelek ve la zechelek sheni. En echad nogea bechelek acher shekach nechlak. Quand tu divises en deux, c'est-à-dire que chaque moitié est d'un côté. Il n'y a pas de lien entre les deux. Comme on dit qu'il n'y a pas une malchoute qui touche la malchoute suivante. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu passes d'un royaume à une autre royauté. Une autre royauté. Il n'y a pas un jour où... Bon, dans la Gemara, il y a un jour où il y avait deux Rashi Yeshiva, deux Nessim qui étaient le même jour. Mais en général, il y a un passage de pouvoir. Aval Israël, okiblu chalouka, rak hem chelek Hashem yotzer hakol. Donc eux, il n'y a pas de division, ils sont Chelek Hachem, ils appartiennent à Dieu qui est le créateur de tout.
Il a moins David alors que Shaoul, il était roi.
Ouais. Exception. Ouais. Velo shayach etzel Hachem itbara Chelek. En vérité, pourquoi on ne peut pas être divisé? Pourquoi on ne peut pas être judéo-français ou judéo-allemand ou ce que vous voulez? Pourquoi on peut être que juif finalement? Parce que Hachem ne partage pas. Comme on a expliqué, Hachem, c'est le Pashut, c'est le Yach, c'est le Yichud, c'est le 1. Donc dans le 1, c'est l'absence... Nous, on ne sait pas définir le 1. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on est embêté parce que notre bouche ne sait pas exprimer la chose. C'est-à-dire que le concept de l'unité divine, elle dépasse la raison humaine. Donc on essaie de dire, il est 1, il est unique, c'est l'unité totale, on peut dire beaucoup de choses, mais en vérité, nos mots et nos concepts intellectuels dans notre tête... C'est impossible de véritablement matérialiser ce que c'est.
C'est même peur.
Voilà. Et si donc nous, on est sous Akadosh Baruch Hu, on est sous le 1. Le 1 absolu aussi, parce que le 1, c'est aussi l'absolu, la totalité. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de Chelek. Akadosh Baruch Hu ne partage pas. Vous savez, souvent, on dit que l'antisémitisme, il vient lorsque les juifs veulent s'assimiler. Et pas au contraire, lorsqu'ils s'affirment comme juifs. Bon, à mon avis, de toute façon, sont antisémites dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a le fameux texte du Mesher Chorma qui dit « Lorsque les Juifs pensent que Berlin, c'est Jérusalem, etc. » Donc toutes ces choses, elles ont été écrites. Et en vérité, c'est quoi? C'est une réaction d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où on dit « Hachem, c'est quoi ? » On t'adore, Akadosh Baruch Hu, mais on va partager, on va faire 50-50. D'accord ? On va faire moitié-moitié. Alors visiblement, ça ne plaît pas véritablement à Akadosh Baruch Hu parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de chélek. Et le peuple juif, pourquoi on a des problèmes qu'on n'est pas unis? Parce que le peuple juif aussi ne relève pas du partiel. Il n'y a pas de partialité chez l'Israël. Et il n'y a pas de partage avec les nations. Donc il n'y a pas de partage interne. Le sod d'Israël, c'est la shlemut. D'accord? Donc Yaakov Ishtam. Yaakov, Israël, c'est la tmimout, la shlemout. Et non seulement en nous-mêmes, on est parfait, mais aussi cette perfection au sens où il n'y a pas de partage avec les nations.
Partager quoi? De quoi il parle?
On ne partage pas avec les nations.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du commerce avec eux?
Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager notre nature, on ne peut pas partager notre essence avec eux. On ne peut pas dire je suis...
Au même titre que les nations, ils ne veulent pas partager avec nous.
Les gars, ils disent, il ne faut pas dire je suis juif français, je suis un français juif. D'accord? Quand tu dis je suis un juif français,
d'abord juif.
Tu peux dire que tu es juif et que bon, il y a on va dire que le etzem c'est que tu es juif et qu'il y a un mikré, c'est que tu es en France, donc tu es français. Donc tu es un juif français. Si tu dis je suis un français juif, ça veut dire que le etzem c'est que tu es français malgré tout et que le juif c'est un mikré. Mais comme juif c'est pas un mikré, c'est-à-dire que quelque part tu es en train de couper ta tsmout en deux. Tu es une sorte de binational comme ça, une sorte de c'est aussi l'accusation des goyim. Qu'on est un ennemi intérieur, etc. C'est ça le truc. Pourquoi? Parce que t'es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
Ça me rappellera ce truc qui avait donné une définition de l'amour qu'il avait entre France et Israël, et qui avait dit...
Le père et la mère, non?
Ouais, exactement. Et de qui il parlait de la mère? C'était la France.
Parce que la mère nourricière, quoi. C'est le cas de la manger. Mais il y a un très beau texte de Rav Soloveitchik, Rav Yosef Dov Soloveitchik de Boston sur ce Inyan-là, sur Parashat Shemot, justement, dans Divrei Hagout ve... Je ne sais plus comment il s'appelle le titre du livre. Divrei Hagout ve quelque chose. Et il parle de ça. Il parle de... J'avais déjà raconté dans un des shiurim, je radote un peu parfois. Pendant la guerre, ils ont réuni tous les rabbanim pour aller voir le président Roosevelt. Pour manifester qu'il fallait faire quelque chose pour les juifs, etc. Il commence à avoir des échos de ce qui se passait en Europe. Et bon voilà, les juifs américains étaient déjà extrêmement bien intégrés, bien installés matériellement, patriotes, ils le sont toujours d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de les recevoir en personne, alors qu'il y avait, je sais pas, une centaine de rabbanim, c'est vraiment une délégation chashuva, il les a fait recevoir par un adjoint, quoi. Je sais pas si c'est le vice-président ou encore plus parchot que ça. Et il utilise ça pour expliquer le inyan de Habaim Mitzrayma. C'est quoi ce inyan de Habaim Mitzrayma? Quand on dit Yaakov ou Banav, il dit Habaim Mitzrayma, il dit en fait après 500 ans, tu es toujours Habaim Mitzrayma. C'est-à-dire que dans l'essence du juif, où que tu arrives, tu es toujours un arrivant. Quand on regarde les livres d'histoire, bon, on est de culture francophone, on est français. Quand on regarde les livres d'histoire, on sait qu'il y a des témoignages archéologiques de présence juive sur le territoire de ce qu'est la France aujourd'hui, avant les Gaulois. D'accord ? Avant les Gaulois. Pourtant, voilà, on sait très bien que si on pose la question à n'importe quel Français moyen, il va dire oui, peut-être on est des concitoyens, etc. Mais bon, quand même un juif, quoi. Et donc, il n'y a pas de. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de chélek. Le juif est entièrement juif, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire par rapport à ça. Pourquoi il n'y a pas de chélek dans le juif? Parce que le juif, il est rattaché à Hachem. Shiou mekablim chalouka minaoumot, on peut pas récupérer une partie de nationalité autre. Ulfichach, au niveau spirituel évidemment. Ulfichach, rouyim el ageoula, la tset mirshut acherim, kasherem el Hachem. Et c'est pour ça qu'on peut sortir. Parce que si en nous, il y avait une dimension qui était partiellement égyptienne, partiellement syrienne, partiellement allemande, partiellement ceci, partiellement cela, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de Géoula. Ce qui nous permet de sortir dans la Géoula, c'est qu'on est entièrement à Hachem. Uchmochen gam ken reuyim shikansu tachat reshut moshlim kasher em nezavim minashen itbarach. Et donc, la seule manière dont on peut se retrouver sous la coupe de dictateurs et d'oppresseurs, c'est lorsque, notamment, on est abandonné de Dieu. Abandonné de Dieu, comme on a expliqué antérieurement. C'est-à-dire lorsque nous, on a abandonné à Kadosh Baruch Hu.
C'est entièrement, ça veut dire entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu. On a une influence tous grecque, hein, on peut dire. On est tous attachés à ce qu'on appelle une racine française, une racine égyptienne, parce que tu es en Égypte, en Allemagne, et ainsi de suite. On n'arrive, c'est-à-dire que dans le comportement que l'on va avoir, il y a toujours cette influence helléniste, grecque.
C'est plaisir que tu te définis par ça.
Non, mais d'accord, mais tu vois bien que tu ne peux pas te définir en tant qu'attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais la réponse, comme je le vois ici.
La réponse figure.
Ça me fait peur le texte.
La réponse, elle figure. Non, elle te fait peur parce qu'on te dit t'es que juif et donc ça c'est difficile à supporter.
Bah, je suis juif à 100%. Mais j'ai quand même une racine, quand même une influence grecque qui fait en sorte que ce soir je vais voir mon dernier Marvel, par exemple. Non, mais je rigole pas, mais ce que je veux te dire, c'est que...
Ça, on ne veut pas le savoir. C'était une parenthèse. Mais je vais répondre à cette question. La réponse à cette question, elle figure dans tous les Sifrei Kabbalah, d'accord ? Et elle figure dans le Sefer HaKuzari. C'est-à-dire que, effectivement, chaque peuple a un génie. Et que une des raisons de la galoute, comme on sait, pour parler dans des termes qu'on ne comprend pas, mais voilà, un inyan d'aller chercher des nitsotsot de Kedusha, ça veut dire que malgré tout, dans ce génie de chacun des peuples, il y a quelque chose dont on a besoin pour la Avodat Hashem. Et c'était très sympathique dans le Hesped que Rav Todros Miller avait fait sur son père, donc directeur du séminaire de Getzed, quand il parlait des Français, des Baalei Tshuva français, il dit en fait les Français sont des révolutionnaires. Et donc les Juifs français, ils ont pris cette mida de révolution et ils ont fait la révolution en eux-mêmes. C'est-à-dire ils ont été capables. Il y a la tchouva qu'il y a eu en France, elle est particulière. Il y a beaucoup de pays où la tchouva aux États-Unis, c'est passé différemment. Dans chaque pays, c'est passé différemment. Mais dit en France, c'est révolutionnaire. Quand tu vois tous ces maoïstes qui sont devenus des Bnei Torah, il y en a plus qu'un, on ne va pas citer de nom, mais on les connaît tous. D'accord ? Comment ils sont passés de l'un à l'autre ? Dire qu'en fait, ils sont allés chercher cet esprit révolutionnaire qui, à la base, était athée, matérialiste, etc. Et au moment où ils ont reconnecté avec leur identité juive, c'est cet esprit révolutionnaire qui leur a donné les kélim pour faire ce qu'ils ont fait dans leur tshuva et dans leur machashava et dans leur vie de Torah. Donc ça, c'est une réponse. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de dire non, je dois rien à ma culture. Non, évidemment que tu dois. Évidemment que tu dois. C'est sûr que dans la manière dont Rashi s'exprime, il ne s'exprime pas ni comme un auteur de langue arabe, ni comme un auteur de langue espagnole, ni comme un auteur de langue allemande, d'accord ? Il s'exprime, on voit qu'il y a une forme de clarté d'esprit qui est française. Mais donc, Akadosh Baruch Hu a réparti ses trésors dans le monde et quitte au Bnei Israël d'aller récupérer ses trésors et de les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que le but de la présence, on s'écarte un peu de notre sujet, mais c'est un peu quand même lié à l'Égypte, c'est-à-dire que le but de la présence, au-delà de ce qu'a dit le Maharal, sur le fait que la galoute soit la conséquence d'un détachement dû à Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais il y a aussi quand même une raison, comme on a dit, à nous, Salpi Adibour, on s'est retrouvé forcé en Égypte parce qu'il y avait à récupérer des choses là-bas. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y avait des choses à récupérer là-bas. Kevan shelo tuchal lomar she'en echad nogea bemuchan lachavero, sheze shayach davka beumot she'en shiv'im, vekol achat yesh la chelek mechulak chaverta. Donc pour les nations, c'est chacun son territoire, d'accord ? Chacun a son domaine. Ou bema shen mechulakot lo itachen shetikanezo birshut shetiyeh meshubedet lezo. Et donc il y a pas de domination possible entre les nations. OK ? Il y a pas de domination possible à long terme. C'est-à-dire chaque nation qui a véritablement son génie restera une nation. L'Espagne, ça reste l'Espagne. La France, ça reste la France. Plus ou moins. L'Allemagne, ça reste l'Allemagne. Chaque pays, il a son... Chaque pays, il a sa nature.
Il n'y a pas d'évolution possible.
Non, mais c'est-à-dire, la France ne va pas se mettre à se caler sur une mentalité allemande. D'accord ?
Non, mais quand le roi d'Achour, ça dérive, qui a mélangé toutes les populations...
Marseille, oui.
Comment tu peux... C'est du mal à. Je sais pas si tu
veux. Il a fait un bilboule.
Les populations, il les a déplacées parce qu'on a du mal à se révolter dans une autre. Comment tu vas dire que les Allemands, ce sont les Allemands du Tsar de l'Allemagne?
Peu importe, mais c'est ceux qui sont rassemblés sur ce. Lorsqu'il y a une unité nationale.
Ouais, le sol donc.
Non, au niveau de. Non, parce que c'est un ensemble qui a une manière de penser. Maintenant, si tu veux nous dire que les nations peuvent se dominer l'une l'autre, c'est uniquement temporaire.
Ah ouais?
Et temporaire, bon, n'est-ce pas? On ne sait pas ce que c'est mikrit, d'accord? Mais bon, on voit, l'URSS a explosé, maintenant, apparemment, c'est en reconstitution, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais... probablement que l'Ukraine, elle reçoit aussi la mascorette qu'elle a méritée.
Amen.
Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il ne peut pas avoir de domination infinie. Même les Indiens, les machins, toute la décolonisation, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, voilà, ils ont beau être en sandales, ils ont des pieds nus crasseux dans la rue, ils finissent par prendre leur indépendance. Même si les autres, ils sont en costume avec des bottes en cuir et des tasses en porcelaine, d'accord ? Donc c'est uniquement bémikré, donc de manière ponctuelle. Et donc la notion de galout, okay, pour nos amis réfugiés palestiniens, la notion de galout est une notion qui est intrinsèque au Am Israël. Chez Israël, Yeshlaem, Ahala, Tatsura, Ashlema, Anivdelet. Pourquoi ? Parce que Israël dispose de la forme, c'est-à-dire de la dimension spirituelle, nivdelet, shlema, parfaite. Ou mipnekar, o shem betachlit amahala, o betachlit ashiflut, comme on s'est rapporté souvent au nom de certains auteurs. Pourquoi on dit kechor ve'ashamaim ve'kechol ayam? Parce que les bnei Israël, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit au top du top, soit c'est les bas-fonds, soit les bas-fonds des bas-fonds. Okay, c'est à nous de choisir. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Parce qu'il n'y a pas de Khalouka, c'est soit 0, soit 1. Toute l'informatique, ça repose sur le 0 et le 1. C'est soit 0, soit 1.
Binaire.
C'est binaire. Soit tu es à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Eliyahu Hanavi dans la fameuse Haftara qui nous fait rire tous les ans, d'accord? Jusqu'à quand Atem Posrimal, Chete Aseifim, Imatem la Baal, Imatem la Shem. Il faut choisir. Pas à la fois, vous allez au Japon, ils font des mariages chrétiens, robe blanche. Ils font des enterrements shintoïstes, d'accord? Ils choisissent. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Donc nous aussi, apparemment, dans des époques du Ham Israël, on a voulu faire un peu du syncrétisme. On est juif, mais d'un autre côté, on aime bien apporter une petite offrande au Baal. Ça peut toujours servir, ça peut être utile. Donc une avis, il a dit, écoutez, il faut arrêter. Soit vous êtes pour Hachem, soit vous êtes pour le Baal. Donc quel est le message de l'Anavi? C'est ce qu'est en train de dire ici le Maharal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Mm. C'est soit l'un, soit l'autre.
Le Mikrit, c'est pour les nations?
Ouais.
Mais alors pourquoi on a parlé des 70 nations à plusieurs reprises? 70 anges, les...
Justement.
Donc ça ne doit pas être...
Parce que chacun a son domaine. Non. Chacun a sa chasse gardée. Chacun a son domaine, chacun a son esprit, chacun a son génie. Si tu vois que l'Allemagne occupe la France, sache que c'est bémicré, ça va durer un temps.
D'accord, ok.
Et c'est pas pour le... Ce sera pas un Reich 2000, ce sera pas un Reich
2000. Les choses reviendront à leur place, quoi.
Les choses reviendront à leur place. Veit ba'er lecha ki Yisrael shem lechelek Hashem bilvad ou bishvil ze efshar ba'em hagalut yoter kemo shiyesh ba'em hageula. Et donc malheureusement, on est plus prédisposés à la galoute que les autres, voire on est les uniques prédisposés à la galoute. Dire que les autres, éventuellement, ils peuvent être asservis par un autre peuple, mais ça finira par passer. Tandis que nous, on se retrouve en galoute. C'est quoi la galoute? Finalement, c'est pas une soumission à un peuple. C'est une déréliction, c'est-à-dire qu'on est totalement abandonné. Et comme on est abandonné, on est ballotté. Alors une fois, c'est la France qui expulse les Juifs. Après, ils vont en Allemagne, l'Allemagne, il va les expulser. Après, ils vont en Angleterre, ils les expulsent. Ils vont en Espagne, ils les expulsent, etc., etc. D'accord ? Vezeu Pessar Sheneechal al Matzot Umorim. Et c'est ça le sod du fait qu'on mange le Korban Pessar avec les Matzot et avec les Mourim. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le chiot précédent ? Que la Matzah représentait la capacité à se libérer. C'est le potentiel de libération. Pourquoi ? Parce que la matzah, c'est le dénuement. Donc quand tu n'es rattaché par rien, tu peux te libérer. Si t'es pauvre, au sens propre du terme, alors t'es coincé. Si t'es riche, t'es englué dans ta fortune. Si tu es dans la matzah, c'est, encore une fois, la pshitout. C'est-à-dire ce qui te fait que tu ne t'allouilles à rien du tout. Et donc ici, le pessah, nechal al matzot umrorim. Le pessah est mangé avec la matzah, qui est notre potentiel de libération, et avec le Maror, qui est malheureusement la situation qui va avec la Géoula, c'est-à-dire c'est soit Géoula, soit Galout, soit Géoula, soit Galout. Il n'y a pas de demi-mesure. Védavarze, inyan barur, me'od, c'est quelque chose de très clair. Chezeu, inyan pesach, matza, ou maror, ki akol, nimshach, achara, pesach, bema, shem, lechelek, hachem. Tout suit le pesach. C'est pesach, matza, ou maror. On commence par le Pessah, parce que le Pessah, c'est le comment on peut comprendre le lien entre un père et son fils? A priori, d'abord par l'amour. Donc on parle Vepassah ou Passarti, Vechamalti, donc la Chemla d'Akadash Bokhu pour l'âme Israël, le symbolique, le Korban Pessah, enfin que le Pessah lui-même, c'est la représentation du lien qui est entre Akadash Bokhu et Israël. Et donc une fois qu'on part de là, qui est la chose la plus évidente, alors on arrive à la matzah et au maror. Donc le maror, c'est l'opposé. Finalement, c'est de l'autre côté du miroir. D'un côté, c'est Pessah. L'autre côté, c'est maror. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une matzah. Il y a une matzah entre le maror et le korban Pessah pour te dire que finalement, cette matzah, c'est l'élément qui va te permettre de passer de l'amertume à la geoula. Et donc, quand on va manger le korban Pessah, on ne fait pas fi des autres dimensions. On est conscient que de la même manière qu'aujourd'hui, on est en train de célébrer la Géoula, lorsque HaKadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation de Galout, c'était pour la même raison, c'est parce qu'on lui appartient. Et finalement, ça donne, vous vous souvenez ce qu'on avait cité au début du premier shiur, c'est ce qu'a dit le Rav Schlesinger de Mansi au nom des Magidé Emet, que peut-être que toute la Galout de Mitzrayim, c'était Kedai pour un soir de Seder, tellement le Seder c'est... Alors, finalement, c'est une manière de dire ça. C'est-à-dire que toute la Géoula, elle prend son sens par rapport à la Galoute. Et donc ça, c'est aussi très maharalien, le fait d'être toujours dans les opposés. Et c'est comme ça qu'il explique aussi Mitechila, et pourquoi ça a commencé comme ça, etc. Parce que si tu veux parler du Shvar du Ham Israël, il faut déjà commencer par le Gnaï, sinon tu ne vois pas le Shvar. Et donc si on ne voit pas la Galoute, on ne peut pas comprendre la Géoula. C'est-à-dire que si, on voit d'ailleurs comment c'est passé, je fais juste une parenthèse, on voit comment ça s'est passé dans le Midbar. Ils ont vu, ils ont tout vu. Dans la traversée de la mer Rouge, il dit que la dernière des Shvachot, elle a vu Machelora Yecheskel Ben Bouzi. Elle a vu plus que les secrets de la Merkava de Yecheskel Anavi. Et pourtant, il s'est passé quoi dans le désert? Ils se rendent direct à Vodazara. Direct. Première chose qu'ils font, première initiative, faisons une idole.
Il y a même le Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'ils avaient encore des sacs dans leur sac, ils avaient des idoles.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment ce lien entre les deux.
Certains.
Il y a ce lien entre la Galoute et la Géoula. Si tu es uniquement dans la Géoula, entre guillemets, tu peux perdre la tête. Tu ne peux comprendre ce qu'est la Géoula que si tu comprends ce qu'est la Galoute. Si tu es uniquement dans un truc un peu béa, c'est la Géoula, c'est machin, etc., tu comprends rien en fait. Et si tu oublies la Galoute aussi, tu comprends rien. Il y a celui qui oublie que nos ancêtres, ils ont supplié pendant 2000 ans de pouvoir mettre un pied en Eretz Israël, etc. Et tu dis, bon, finalement, c'est naturel d'être ici, c'est banal. Paris Tel Aviv, LY 300, je ne sais pas combien.
323, 326.
Ouais, c'est
voilà.
Ça que j'arrive pas à
comprendre.
D'accord. Voilà. Marseille.
Donc la conséquence de la. Ouais. Est-ce que Marseille c'est une galoute? C'est une question. Alors Ve'achara Madriga Azot Ha'Eliona, il dit d'après cette Madriga, du fait qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, Nimshechet Lahem Ageula Mereshut Ha'Omot. C'est de ça que nous tirons la Geula de la domination des nations. Shalze more hamatsa, comme on l'a dit au show précédent, que la matza représente ça, représente la libération.
Et c'est entre le lien entre Pessah et le Maror.
Et le Maror, voilà. Et Shabbat Tachad Reshut Ha'Umot, Alze more Amaror. Donc finalement, on voit que le Maral est arrivé à comprendre et à englober la totalité, comme toujours, en nous disant Pessah, matza ou Maror, c'est pour te dire, si tu fais le Pessah tout seul, c'est finalement. Comme on avait dit, de la commémoration, c'est-à-dire on est libre, on s'éclate, on est une nation, on a une armée, on a un État, machin, etc. Si tu dis Maror tout seul, bah c'est voilà, on aime pleurer, je regarde Shoah toute la journée, etc. Et si tu regardes que Matza, alors bon, c'est voilà, on vit que sur le miracle. On vit que sur le miracle, on vit que sur quelque chose qui finalement est quelque chose de qui est un instant dans l'histoire du Ham Israël, un instant décisif, mais un instant. Et aucun de ces trois éléments seuls n'a de sens. Donc pour donner du sens au Seder de Pessah, pour être yotze de la mitzvah de Seder de Pessah, on a besoin de Pessah, Matzah ou Maror. C'est-à-dire remettre en perspective le fait que tout vient de la Ardout, de la Pshitout, d'Akadosh Baruch Hu, et du fait que nous, on est la part de Dieu. De la même manière que Dieu est un et qu'il est parfait, nous sommes sa part, nous sommes un, nous sommes indivisibles. One nation under God, en fait c'est pour les juifs, c'est pas pour les américains, une nation qui est indivisible, d'accord, c'est marqué dans la constitution américaine, une nation indivisible, donc les nations nous ont pris aussi, hein, pas que nous qui sommes allés chercher des tzotzot, ils ont volé pas mal. Donc on est one nation under God, on est une nation indivisible sous Dieu, et seule la conscience de ça, du fait qu'on est une nation indivisible, et que c'est pour ça qu'on a été en galoute, mais qu'on a aussi ce sod de la matzah. Pourquoi on mange de la matzah? Le sod de la matzah, c'est qu'on a la capacité à sortir de notre galoute par le détachement du matériel et d'arriver à la Géoula. Et donc la Géoula ne prend son sens que dans cette perspective historique et que dans cette perspective spirituelle. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on est Matril Bignai et Mesayem Bishvach. Et tout ça, c'est une transition qui correspond au niveau, on va dire, historique, maintenant, de ce qu'on parle ici, c'est la sortie d'Égypte, mais qui a aussi une dimension au niveau individuel, que l'homme aussi doit comprendre que les problèmes qu'il rencontre dans la vie, il les rencontre pour la même raison qu'il va rencontrer des périodes heureuses, et que comment passer de l'un à l'autre, par justement la matza, c'est-à-dire essayer de comprendre, essayer de se détacher des choses qui sont inutiles dans la vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses qui sont toxiques, d'accord, il y a des personnes toxiques, il y a des matières toxiques, il y a des activités qui sont toxiques. En fait, la Géoula individuelle, elle se joue à ce niveau-là. Et le dernier niveau, celui qu'on voit toujours dans le Maharal, c'est le niveau cosmique, c'est la même chose, que pour que le monde arrive à son tikkun plein et qu'on arrive à une geoula finale, il faut également que le Ham Israël fasse ce travail au niveau des individus et au niveau de la collectivité, et que quand le Ham Israël aura fini ce travail au niveau de la collectivité, il va emmener le monde entier, parce qu'il aura récupéré tout ce qu'il avait à récupérer dans les nations, tout le chalal, toute la biza qu'il fallait prendre dans les nations pour justement l'élever à la Kdusha. Une fois que le Ham Israël aura fini ce travail-là au niveau national, ça entraînera également, Bizrat Hashem, une délivrance cosmique, Bimera, Beamenu, Amen, Veamen. Mm.